Merci beaucoup, José. Alors, moi aussi, je vous salue. Ça fait plaisir de faire votre connaissance. Et aussi, dans cette maison chaleureuse que j'ai visitée nombreuses fois, me retrouver ici, ensemble avec vous, à un repas où, justement, je crois l'élément chaleureux est quelque chose qu'on ressent bien. Ça fait vraiment partie de l'atmosphère. Alors, je vous remercie beaucoup d'être ici ce matin. C'est pas évident, il fait froid dehors. C'est dimanche matin, on peut dormir. Et j'espère que, à la conclusion, non seulement vous allez être bien nourris avec les objets d'art qu'ont produit Hélène et José, mais aussi que ça va vous stimuler l'intérêt dans l'étude, dans une étude particulière des psaumes. Alors pourquoi les psaumes ? D'abord, il y a une beauté hein, que j'espère qu'on va explorer aujourd'hui. Il y a une beauté particulière dans la poésie. Et il y a une beauté particulière dans le texte biblique. Et quand on retrouve les deux en même temps, la poésie biblique, on retrouve une beauté qui est très profonde. Et donc, qui nous inspire. Et je crois que l'inspiration, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup. Dans notre génération, qui est très blasée, on a avec la technologie, on a tellement conquis de domaines. Et ce qu'on n'a pas encore conquis, alors il y a déjà des recherches qui nous montrent une direction, les conquêtes qu'on espère faire dans les années à venir. Et ce qui nous manque, c'est l'inspiration. Je viens d'être présent à un cours qui a été donné par le grand rabbin d'Angleterre. À l'occasion du 550e anniversaire de l'université de Bâle. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que pour les 550 ans d'une université laïque, qui a une grande tradition en fait de liberté d'expression, qui va au-delà de la liberté d'expression, vers opposition à l'établissement religieux, ils ont choisi, comme leur invité d'honneur, pour cette année si symbolique, un rabbin. Et un rabbin qui est venu leur donner un discours religieux. Et il a voulu expliquer en une phrase pourquoi est-ce que, quand tant de penseurs s'attendaient à ce que la religion disparaisse, que tout le monde, tout au moins dans l'Occident, devienne laïque, on a vu une réémergence de la religion dans le monde entier. Et il a répondu ça avec une phrase très intéressante. Et il a dit, les questions qu'on se pose aujourd'hui ne sont pas les mêmes questions qu'on s'est posées pendant le XXe siècle. Pendant le XXe siècle, on s'est posé la question du quoi et du comment. Qu'est-ce que je veux obtenir et comment est-ce que j'y arrive ? Et aujourd'hui, on se pose la question du qui et du pourquoi. Qui suis-je et pourquoi est-ce que les choses sont comme elles le sont ? Et donc, ça, ce sont des questions religieuses qu'on se pose. Et justement, après ce siècle du quoi et du comment, je trouve qu'un texte de poésie sainte, qui combine en même temps, on peut dire, l'esprit de Shem et la beauté de Yéphet, deux des enfants de Noé, que ça, c'est justement ce qu'il nous faut pour s'inspirer. Donc, je vous invite à commencer par la lecture du 92e psaume. La lecture est importante, parce que c'est à travers la lecture qu'on va découvrir la cadence, on va découvrir le rythme, on va pouvoir découvrir, avant d'analyser, on va pouvoir découvrir quand même déjà un peu de quoi il s'agit. Donc, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, un psaume, cantique pour le jour du Shabbat. Tov l'odot l'Hashem, ul zamer le Shimcha Elyon. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Le Hagid Baboker Chasdecha, Ve'emunatra balelot. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Allez asor va'ale navel, allez higayon bechinog. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Kisimartan yeshem befa'alecha, bema'ase yadecha aganem. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Ma gadlu ma'asecha Hashem, mod amaku machshavotecha. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Ishbar lo yeda, uchsil lo yavin etzot. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Bifroach reshaim kmo esev, vayatzitzu kol poale aven, lehishamdam adead. Si les méchants croissent comme de l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Ve'ata marom le'olam Hashem. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Kihine oivecha Hashem, kihine oivecha yovedu, yitparedu kol poale aven. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Vatarem kirem karni baloti beshemen ra'anan. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Vatabet aini beshurai. Bakamim alaim reim tishmana oznai. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Tzadik katamari frach. Ke erez balvanon yiske. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Shetulim bevet Hashem, b'chatzrot elokenu yafrichu. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Od yenuvun beseva deshenim v'ra'ananim yiyu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Lahagid ki yashar Hashem. Pour faire connaître que l'Éternel est juste et mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. J'aimerais bien ouvrir une discussion maintenant et poser la question, de quoi s'agit-il dans ce psaume? Quel est le thème central du psaume? Quelqu'un qui ose?
Maybe they need a little bit of coffee so they can think better.
Oui, peut-être avec du café, ça va mieux, c'est vrai.
Servez-vous alors
le vous dites Shabbat. Hein, commence, nous avons un titre au début qui annonce que nous avons un psaume au thème du Shabbat. Est-ce que quelqu'un peut suggérer une difficulté avec cette suggestion?
Dans la suite du psaume, on ne retrouve pas l'idée du Shabbat.
Voilà. Au début, ça s'annonce Mizmor Shir Liyom HaShabbat, un psaume pour le jour du Shabbat, et après on ne le retrouve plus, on a perdu le Shabbat, il a disparu. Alors, déjà on voit qu'il y a, une discontinuité. Et cette discontinuité, on va la retrouver souvent dans les Télim. Cette discontinuité d'ailleurs est voulue, elle est censée nous faire penser un peu au thème. Mais identifions alors le thème, alors qu'est-ce qu'on retrouve comme thème après? Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous retrouvez comme thème dans le psaume même? Louer Dieu. La musique et du chant. Beaucoup d'hymnes, d'accord, les amis.
La différence d'abord de l'histoire de l'homme vue par l'homme et l'histoire vue par Dieu.
D'accord. Ce sont toutes des très bonnes suggestions et j'aimerais bien essayer de les mettre toutes en contexte, en perspective.
C'est Motsi.
Oui, c'est Motsi. Par contre, c'est une spécialité baloise. Laugenbrötli. Alors, prenons l'élément de louange. La louange, c'est un thème très prominent dans les psaumes. C'est vrai qu'il s'agit... L'idée des psaumes, c'est souvent de louer Dieu. Alors, il s'agit de louanges. On va devoir se poser la question de quel genre de louange s'agit-il. Mais j'aimerais bien contredire juste un petit moment. Le problème, c'est qu'il y a tant de psaumes qui sont des louanges qu'en expliquant qu'il s'agit de louanges, on n'a pas encore expliqué suffisamment. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on va comprendre d'autres thèmes, on va revenir vers les louanges, on va voir, ah, maintenant je comprends qu'il s'agit d'une louange particulière. C'est donc c'est un élément important du psaume, mais qu'on ne peut pas encore aborder. C'est trop tôt dans la discussion. Alors, passons vers la musique. La musique, c'est très intéressant. Le premier mot du psaume, c'est Mizmor. Comment est-ce qu'on traduit Mizmor ? Cantique. Ça veut dire quoi, cantique ?
Les amers. Les amers, c'est jouer d'un instrument de musique.
Un chant, jouer d'un instrument de musique. Vous avez tous les deux raison. Mizmor vient de Zemer. Et Zemer est un mot qui en fait, a plusieurs homonymes. Zemer. Nous avons Lizmor, qui est un verbe de couper des branches. Mais ici, il ne s'agit pas de couper n'importe quoi. Il s'agit d'un chant, d'un cantique ou de la musique. Alors, souvent, il nous manque la définition exacte d'un mot, on peut, Rachid le fait parfois, nous retrouvons ça dans le Talmud, se référer à des langues avoisinantes. Il y a d'autres langues sémitiques où on va retrouver des mots semblables, ça va nous permettre, alors parfois on retrouve des comparaisons avec l'arabe, avec l'araméen, et je veux suggérer ici une comparaison avec une ancienne langue éteinte. Vous dites ? Le grec, non. Le grec, c'est une langue indo-germane, c'est une langue européenne, c'est pas sémitique, à ce que je sache. Mais c'est vrai que dans l'hébreu du temps du second temple, que des mots grecs ont été incorporés dans l'hébreu. Donc aujourd'hui, quand vous étudiez l'hébreu, ou surtout quand on étudie l'hébreu du temps de la Gemara, voire même la Mishnah parfois, on va retrouver des mots grecs. Mais dans la Bible même, il n'y a pas encore le contact avec la Grèce, mais on peut retrouver des mots qu'on connaît aussi d'autres langues. Et alors, en acadien, si je ne me trompe pas, je crois que c'est en acadien, nous avons le mot « zamar ». Zamar a la connotation, en même temps, de ce que vous dites et ce que vous dites. C'est le chant accompagné de musique. Et c'est justement de quoi il s'agit ici. Un chant, donc des paroles, accompagné de musique. Ce n'est pas évident, donc cantique peut-être que ça capture cette idée en français, ce n'est pas évident de trouver une traduction dans les langues européennes. Il nous manque parfois le mot pour ça. C'est en même temps l'un et l'autre. Alors on retrouve donc, évidemment... J'ai laissé ça ouvert, que peut-être en français on peut voir ça comme ci ou comme ça. Moi j'ai essayé de traduire ça en anglais pour une publication où j'ai participé et j'ai consulté avec plusieurs experts d'anglais. On n'a pas pu trouver un mot qui communique cette notion en même temps du chant et de la musique. Donc c'est les deux en même temps. Bonne question, très bonne question.
Alors,
oui, alors justement, ça nous amène vers un autre thème, le Mikdash. Vous voyez, vers la fin, quand on parle des justes, on dit ils sont plantés b'chatzrot elokeinu, dans le parvis de notre Dieu. Le chatzer, c'est en fait le parvis du temple. Donc, on peut aussi rattacher ce psaume aux offices du temple, les chants donc des Lévi'im. Et il est vrai que même que le Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser des instruments de musique, au temple, on avait le droit. Parce que l'interdiction de faire de la musique le Shabbat est une interdiction rabbinique qui est liée au fait que quand on ajuste les instruments est strictement interdit le Shabbat. Donc, par conséquence, on a complètement interdit de jouer, parce que quand on joue la musique, il est normal constamment, donc à chaque coup quand on commence une séance, de peut-être ajuster quand même. Et donc, il est interdit de jouer la musique de Shabbat, mais dans le temple, comme il s'agissait du centre cultique du peuple. Donc, on avait des grandes personnalités religieuses et c'était tout à fait public. Donc, les gens faisaient beaucoup plus attention et on n'a pas interdit, hein, c'est ce qu'on a, la phrase « Enchvut Bamikdash », on n'a pas décrété des interdits de ce genre dans le Beit HaMikdash parce qu'on se contrôlait l'un l'autre constamment. Donc,
dans le Mikdash le samedi, il y avait des sacrifices.
Il y avait des sacrifices parce qu'il y a des obligations.
Donc le Mikdash, c'est une autre dimension.
C'est une autre dimension, absolument. Parce qu'il y a certaines obligations qui s'appliquent particulièrement au samedi. Bon, d'ailleurs, ce psaume-là, vous avez mentionné le Shabbat, c'est le psaume que les Lévi'im chantaient à l'occasion du sacrifice du Shabbat. On fait le Moussaf, on fait aujourd'hui, encore, on continue, on a la prière du Moussaf, c'est la prière qui correspond au sacrifice du samedi. Bon, on va passer aux autres thèmes qu'on retrouve ici. On a parlé des justes, on a parlé des ennemis, on a parlé des injustes, la perspective de Dieu. Vous êtes le groupe, je crois, le plus perceptif à qui j'ai enseigné ce psaume. C'est vraiment incroyable. Quand je vois tous les thèmes ensemble, c'est merveilleux. Alors, ayant tellement de thèmes, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut découvrir le thème central d'un psaume? Et là, il y a deux clés. Et ce n'est pas toujours la même clé qu'il faut appliquer. Il y a deux clés qui vont fonctionner dans ce psaume. Parfois, c'est un peu différent. Mais deux clés. Alors, une clé, c'est qu'on va rechercher des paroles, un verset étrange qu'on ne retrouve pas souvent. Et on va voir, est-ce qu'on peut trouver un verset semblable ailleurs dans les psaumes ou ailleurs dans la Bible?
Est-ce qu'il faut trouver ici quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs ou quelque chose ici qu'on trouve ailleurs?
Qu'on trouve, mais qu'on trouve rarement.
Ah.
D'accord? Pour voir, est-ce qu'on peut éliminer ce psaume à l'aide d'un autre psaume? Et puis, il y a une autre technique intéressante. Souvent, on va retrouver le thème central du psaume, pas au début, mais puis au milieu. Alors, regardez graphiquement, hein, comme vous voyez ici, le psaume. Moi, j'ai fait un exercice ici, j'ai commencé, je ne l'ai pas complété, mais j'ai fait un exercice, j'ai arrangé le psaume par verset. Alors, d'où ça vient ça? C'est très clair, on a les versets, mais cet exercice est devenu populaire par un enseignant de Tanakh, qui a vécu il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de, je crois son nom c'est Moshe Meir Weiss. Il faisait partie des jeunes académiciens, mais aussi des jeunes en général, qui pendant les années 30 ont été encouragés à faire Aliyah vers Israël, pour d'un côté construire, et d'autre part, on commençait à comprendre qu'il faut sauver les Juifs européens, et qu'on a donc essayé de se concentrer surtout sur les jeunes qui sont très vulnérables. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus comme ça aussi. Il y a eu des enfants qui sont passés en Angleterre, les Kindertransporten. Il y a aussi eu des jeunes qui sont venus, des adolescents qui sont venus en Israël, et aussi des gens qui venaient de commencer leur carrière. Aux États-Unis aussi, mais ça c'était plus tard un peu quand même. Les États-Unis. Au début, ils étaient très renfermés. Ils craignaient la grande immigration. Et Moshe Meir Weiss était un jeune académicien qui venait issu d'une famille non pratiquante, qui n'avait pas de grande connaissance de textes juifs, je crois sa spécialité, c'était la littérature allemande. Et il a fait Aliya, et on lui a donné un poste, on lui a dit, voilà, tu vas devenir enseignant, tu vas former des enseignants, tu vas enseigner la Bible. Bien, la Bible, bah, je ne connais pas, j'ai lu, mais je ne connais pas. Et il s'est dit, voilà, moi ce que je connais, mon domaine, c'est la poésie. Je vais essayer d'analyser les textes bibliques en utilisant les outils que j'ai. Et il a pris donc les psaumes, il a commencé à faire ça, à les séparer en versets, puis il a pris les versets, il les a séparés en colons, hein, les parties du verset. Et c'est comme ça qu'il a commencé à les lire avec ses élèves. Et ce qu'il y a, alors bon, il venait pas lui-même, il n'était pas pratiquant ou il n'était pas très pratiquant, mais il avait une âme très liée à la Bible et au judaïsme, et donc il a enseigné beaucoup d'élèves qui eux étaient pratiquants, Et ça, je veux dire, il a fondé une discipline. Et grâce à son œuvre, on a pu découvrir encore une couche de signification dans les psaumes qu'on ne connaissait pas avant. Et regardez ici, directement, ça saute à l'œil, c'est que nous avons des lignes qui ne sont pas trop longues, moyennes, puis on a une ligne très grande, une très petite, et une autre très grande, et après à nouveau des lignes moyennes. Les versets bibliques en général peuvent se diviser en deux. On appelle ça un bicolon. Il y a certains versets qu'on ne peut pas diviser, qui sont juste une unité, et d'autres versets qui ont trois unités, des tricolons. Et très très rarement, on peut identifier des tétracolons. Ça existe, c'est une question de... Il y a une controverse, est-ce qu'on en a ou pas, mais en général, deux colons. Et ici, vous voyez, du coup, il y en a trois, un, trois. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir ce changement? Et c'est bien entendu pour nous éveiller. Nous dire, regarde ici. Le rythme, c'est les bicolons, mais justement, le tricolon, il brise le rythme. Il interrompt le rythme. L'unicolon aussi. Donc, c'est en fait pour nous dire, il y a quelque chose d'important, quelque chose d'exceptionnel. Et souvent, c'est pile au milieu du psaume qu'il va y avoir une déclaration importante. Alors, si vous comptez les mots du psaume, à l'exclusion du verset, on a découvert tout à fait au début une discontinuité. On a dit le premier verset, il est séparé du reste. D'ailleurs, il a un nom, le premier verset, dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle une superscription. Si on va commencer à compter les mots à partir de Tov, et on va commencer aussi par la fin, à partir de Bo, vous allez découvrir qu'à une distance de 52 mots du début et 52 mots de la fin, donc pile au milieu, nous avons quatre mots. Va'ata, Marom, Lolam, Hashem. Aussi bien dire qu'en utilisant le chiffre, le nombre, et en utilisant la graphique, hein, on va le psaume essaie d'attirer l'attention vers le centre. Et au centre, on retrouve ce que vous avez dit, la perspective divine. Et toi, tu es le plus haut, le très haut, à perpétuité, au éternel. Alors déjà, on retrouve un thème important. Un autre thème, on peut le retrouver à travers la comparaison d'une phrase très rare. Nous avons ici « Ishbar lo yeda ». Quelqu'un de... comment est-ce qu'il traduit ? L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Le 73e psaume à la phrase, c'est unique dans le Tanakh et surtout dans les psaumes. « Anochi ishbar » Je suis un homme stupide. Bahamot hayiti imach, j'étais comme un animal, comme une bête avec toi. Bête dans le sens de ne pas comprendre. Oui. Et quel est le thème là-bas? C'est le même thème qu'on retrouve ici. En fait, c'est le thème qu'on a dans les tricolons. Bifroach reshaim komo esev, quand on voit les méchants qui croissent comme de l'herbe. Il s'agit ici du problème de toutes les que tout homme se pose à un moment donné. La théodicée. Pourquoi la théodicée? Où est la justice quand on voit des gens méchants, mauvais, qui ont une bonne vie, et des gens justes, des gens bien, qui ont la vie difficile? Alors il y a plusieurs réponses qu'on va découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui on va découvrir deux réponses. Une réponse, c'est ce psaume-là. Il nous dit, Bifroach Rechaim comme Esev, et regardez ça, on va retrouver ça à travers le nombre, à travers la position dans le psaume, à travers cet élément graphique, le tricolon contre l'unicolon et le bicolon, et à travers aussi une poésie des paroles, donc plus classique. Le nombre, on l'a découvert grâce à 52 de chaque côté, qui je note, 52 c'est le double de la valeur numérique, 26, le double de la valeur numérique du nom Yotke Vavke. Ce qui est très intéressant, parce que la gematria, d'habitude, c'est quelque chose du Moyen-Âge. Encore, on retrouve dans le Talmud, à la rigueur. Mais il y a un élément de gematria qu'on retrouve déjà dans la Bible. Hein? Donc la gematria, ce n'est pas seulement C'est pas seulement retrouver des liens concrets à travers des phrases où on compte. Voilà. C'est aussi une façon de créer un poème, de créer une balance dans un poème. Nous avons le psaume 136 qu'on récite chaque Shabbat, le Kilolam Chasdo, 26 lignes. Ici aussi, deux fois 26 mots avant et deux fois 26 mots après, pour qu'on se concentre sur cette ligne-là et qu'on fasse le lien avec le nom de Dieu. Donc on a le nombre, on a la position, pile au milieu, on a l'élément graphique, et regardez. La personne se pose la question. Hein, la personne stupide qui ne peut pas comprendre, parce que cette personne n'est pas arrivée à la conclusion de ce psaume, qui dit, mais bifroach, shaim komo esef, je vois les méchants qui croissent comme de l'herbe. Alors quelle est la réponse qu'on donne? D'abord, la première réponse que donne l'auteur du psaume, qui est très probablement aussi l'auteur du 73e psaume, qui auparavant a dit, moi je suis stupide. Là, il a découvert la réponse et il dit, Vata marom lo lamashem. C'est une question de perspective. À chaque moment, on retrouve de l'injustice. Pourquoi? Parce que Dieu est Erech Apaim. Il prend son temps. Il a la patience avec l'humanité. Et donc, il ne punit pas immédiatement les méchants et il ne donne pas la récompense immédiatement aux justes non plus. Mais quand on a la perspective éternelle, on regarde l'histoire d'une perspective de très longue durée, on va voir que ça s'arrange. Mais il ajoute encore un autre élément. Bifroach et Shaim, quand les méchants, ils croissent, à quoi est-ce qu'on les compare? C'est quoi, Esev?
Gazon.
Le gazon, l'herbe. Pas seulement l'herbe, mais tout ce qui est petit, qui pousse. Hein? Des herbes, pas seulement l'herbe, le gazon, mais aussi toutes les herbes, les mauvaises herbes, les bonnes herbes, tout ensemble. Voilà, comme dans une prairie. Et les justes, ils sont comparés à quoi? C'est quoi Tamar? La date, le palmier. Le palmier et le cèdre. Alors regardez ça. Pendant des années, on imagine quelqu'un, un jour de printemps, un jour radieux, il s'étale, il se met au soleil, sur un drap. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'herbe qui pousse, et ça lui cache la vue. Et il dit, voilà, les méchants, c'est comme l'herbe ici, partout, c'est verdoyant, c'est frais, c'est plein de vitalité. Mais comment ça se fait que cette herbe, elle pousse? Mais il ne voit pas plus loin que 20 cm, parce que l'herbe lui cache la vue. Mais quand on se lève, qu'est-ce qu'on voit? Que l'herbe est toute petite. Et le juste, il est un peu plus loin, on voit, c'est un arbre. Il a pris du temps, au début on n'a pas vu, on a vu un petit arbuste qui pousse, tous mes crichons qui pousse lentement. Mais au fil des années, qu'est-ce qu'on voit? On a un arbre énorme, verdoyant, et quand l'été vient, l'herbe se dessèche et disparaît, tandis que l'arbre, il reste et avec cette force. Donc en fin de compte, ce que ce psaume nous dit, côté leçon, c'est que la solution de la théodicée, c'est de regarder l'histoire humaine à long terme, et que c'est vrai, en chaque moment, il y a l'injustice. Mais que quand on prend la perspective au long d'une vie humaine, ou voire là même au-delà d'une vie humaine, on va découvrir qu'il y a justement, à long terme, il y a la justice règne. Et qu'en fin de compte, on remarque que... On n'avait pas remarqué que les justes avaient poussé comme des arbres. On croyait voir juste l'herbe, mais en fait, c'est une croissance qui, it fools, ça nous donne ça nous trompe. Ça nous trompe parce qu'on croit voir quelque chose de très verdoyant, mais il s'agit juste de l'herbe qui, avec la première chaleur, va se dessécher et disparaître. Donc, ça nous donne ces deux éléments pour répondre à la théodicée. Qu'est-ce que ça fait avec le Shabbat? Et qu'est-ce que ça fait avec les louanges aussi? Le Shabbat et les louanges. Alors ça, c'est une bonne question. Il y a une question de qui est l'auteur de ce psaume. Alors moi, j'ai suggéré que l'auteur de ce psaume, c'est l'auteur du 73e psaume. Le 73e psaume est un psaume de Asaph. Asaph, c'était le chef de chorale du chœur des Lévi'im du temps de David. Quand David a amené l'arche, le Aron HaKodesh, vers Jérusalem, il a donné la tâche à Asaph de présenter certains psaumes qu'il avait écrits lui-même, notamment le Hodou, le hodou qu'on récite chaque jour, ce sont deux psaumes qu'on ne retrouve pas dans leur forme du hodou, on ne les retrouve pas dans le livre de Tehilim, mais dans le livre d'Ivrei Hayamim chronique, où on retrouve donc ces psaumes-là, ça se trouve ailleurs aussi. Et Asaph, justement, il présente ça. Donc c'est un psaume d'Asaph. Alors, je suggère peut-être que ce psaume aussi, c'est un psaume d'Asaph, mais j'ai un petit problème. C'est que le Talmud nous donne le Midrash nous donne deux identifications de l'auteur de ce psaume. Un auteur serait Moïse. Pourquoi Moïse? Parce qu'il s'agit d'un bloc de psaumes qui n'ont pas d'attribution à partir du 91e psaume jusqu'au 100e psaume. Ça couvre ce Mizmor, le Mizmor après. Il n'y a pas Mizmor David. Non, ce n'est pas Mizmor David, ni Mizmor l'Asaf, etc. Non, il n'y a rien. Mais comprend tout le Kabbalat Shabbat, les cinq premiers psaumes du Kabbalat Shabbat, les deux psaumes qu'on dit après le Hadodi, il y a celui-là, il y a encore un. Tout ça sans attribution. Et au début de ce bloc, nous avons Tefila le Moshe, le 90e psaume, Tefila le Moshe. Donc il y a un point de vue qui dit c'est Moïse qui a écrit tout ça. Il y a un autre point de vue qui dit c'est Adam Arishon. Pourquoi Adam Arishon? Là, je viens aux louanges que vous avez mentionnées. Nous avons Tov l'odot l'Hashem ulzamer l'Shimcha Elyon l'agit babokeh hasdecha v'amenot rabalelot. Il est bien de louer Dieu et de chanter à ton nom, ô le suprême, de raconter ta bonté le matin et ta dévotion ou ta loyauté pendant la nuit. Alors, il y a un midrash qui dit, voilà, Adam, après qu'il a fauté et qu'il a été renvoyé du Gan Eden, alors c'est quand que Adam a été créé? Quel jour, quelle date? Le sixième jour, mais il y a une date en calendrier. Il y a deux points de vue, alors.
Vendredi.
Ah, oui, c'est le sixième jour. On le chante chaque année, c'est on le chante constamment. Ayom Aratolam. Ayom Aratolam, on le chante à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est le jour de la création de l'homme, c'est Rosh Hashanah, selon un point de vue. Le Rosh Hashanah plus tard, oui, mais...
C'est pour ça qu'on ne peut pas dire...
on rappelle, c'est ce thème qu'à Rosh Hashanah, on mentionne, parce que l'homme a été créé à Rosh Hashanah, selon un point de vue. Donc, c'est... À la fin de l'été, au début de l'automne, il quitte le Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il voit au début d'automne? Ce sont les journées qui se raccourcissent. Et alors, il voit chaque jour que le soleil se couche plus tôt. Et au fur et à mesure, il commence à s'angoisser. Il se dit, mince, c'est par ma faute que la journée se raccourcit. Bientôt, je vais me retrouver l'obscurité totale. Et puis, en plein milieu d'hiver, qu'est-ce qu'il voit? Ça change. Hein? 21 décembre, il voit que du coup, les journées commencent à s'allonger et il comprend que ça fait partie de la création de la nature, que les jours se rétrécissent après que ça se rallonge à nouveau. Et il commence à louer Dieu et il loue Dieu donc pour le jour et pour la nuit. Alors, cette idée-là nous taxe un peu parce que d'un côté, on voit c'est lié à Asaph, d'un autre côté, c'est lié à Moïse et encore à Adam Arishon. Alors, ça nous amène à un autre thème qui est un grand thème en soi que je n'aimerais pas aborder en détail aujourd'hui parce que je vois que les gâteaux et les sandwichs nous regardent. C'est que, comment lire un Midrash? Comment lire un Midrash? Le Midrash, l'idée que Adam, maintenant qu'on a fait cette analyse, l'idée que Adam ait écrit ce psaume est un peu incrédible. Pourquoi? Quels méchants a-t-il vu qui ont pu s'accroître? Je vois les méchants croisser comme de l'herbe. Il y avait personne. Il y avait ses enfants. Il va dire ça à propos de ses enfants. C'est la première année de son existence. Mais ses enfants sont encore tout petits. À propos de qui est-ce qu'il parle? De ses mauvaises penchant, d'accord. Mais alors il dit, mon penchant à moi, il fleurit, il pousse comme de l'herbe. Je dirais plutôt, j'ai une autre suggestion, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est que, j'ai une autre suggestion, j'aimerais bien voir ce que vous deux pensez, parce que vous deux vous prenez justement ce parti-là. C'est que, c'est pas que Adam ait écrit le psaume entier. Ce que le Midrash veut nous communiquer, c'est que la notion que nous avons au début de ce psaume, ou bien je suis même prêt de dire que les deux premiers versets soient une tradition d'Adam. Ou plutôt, même pas que Adam ait écrit ces deux versets, mais que cette notion capture la prière d'Adam. Parce que Adam, il est passé par ce processus. Et donc, on se dit, mais comment est-ce qu'il a, il a réagi? Il a prié. Quelle était sa prière? Il a remercié Dieu pour découvrir que le jour et la nuit, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pendant l'automne et l'hiver, ça se raccourcit, après ça commence à s'accroître à nouveau. Donc, ce psaume est une réflexion de la prière d'Adam. Ou encore que ces deux versets sont la prière d'Adam. Mais pas que tout le psaume soit sa prière. Qu'est-ce qu'on va faire avec Moïse? Alors, oui, mais alors pourquoi avoir... Ce que ça nous enseigne est absolument le plus important dans le psaume. Mais moi, j'espère, à travers ce que je vous donne comme idée, de justement d'amener une certaine subtilité dans la façon dont on interprète les midrashim. C'est ce que j'espère communiquer. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est l'enseignement du psaume même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Moïse? Alors, c'est très intéressant. C'est que... Oui. C'est vrai, absolument. Il s'agit de l'idée que le méchant, à travers sa bonne vie, en fin de compte, il s'éteint. Voilà. Oui, absolument. Merci.
Et le roi David ne peut pas du tout être l'auteur de ce psaume.
Asaph et David, c'est l'équipe. Hein. Oui. Le Talmud nous dit qu'il y a 11 auteurs du Tehilim. Il y a 11 auteurs. Et l'auteur principal, c'est David. Mais ce n'est pas le seul auteur. Si vous lisez les psaumes et vous analysez les superscriptions, vous allez voir, c'est un exercice merveilleux. Chacun peut faire pour soi, même en traduction, de regarder juste les superscriptions et de noter les superscriptions qui ont une attribution. 101 des 150 psaumes ont une superscription. Le premier verset. Superscription écrit au-dessus.
Toujours quand il y a le premier, c'est en général le titre.
Voilà.
Et nous, on l'incorpore. Comme si
alors, si on analyse les superscriptions, 101 des 150 psaumes ont une superscription avec attribution. Attention, certains des autres psaumes n'ont pas de superscription, d'autres une superscription sans attribution, comme ici, Mizmor Shirim HaShabbat. Et on va découvrir qu'il y a des blocs qui appartiennent à certains auteurs, c'est groupé. Et il y a donc plusieurs auteurs. Donc le Talmud nous parle de 11 auteurs. David, on a à la majorité des psaumes avec attribution, mais ce n'est pas, c'est pas du tout tous. Hein. Nous avons les Korach, nous avons Asaph, nous avons Yedutun, Etan. Donc il y a toute une liste de gens. Et le Talmud essaye de nous enseigner qui sont ces gens-là, quelque chose à propos de leur vie. C'est un cours en soi qui est très intéressant d'essayer de découvrir l'identité des auteurs et du rédacteur des psaumes. Ah. Oui.
Moi, j'avais l'impression de ma tête que ce mismo, c'était juste parce qu'il est né le vendredi et il fait ça pour rentrer à Olam Haba, parce que c'est ce qu'on demandait à peu près à Adam. Adam, il n'avait pas de la Torah, il avait une mitzvah à faire. Et on dit que c'est cette mitzvah, c'est qu'il a écrit ce mouvement et il est rentré. La faute est venue après.
Alors,
c'est ça.
Il y a...
C'est comment positionner la faute chronologiquement par rapport à...
Je vais admettre que maintenant, je ne me rappelle pas exactement d'autres éléments qui peuvent être écrits dans ce midrash-là. Je sais qu'il y a des gens qui expliquent ce lien avec Adam comme vous le faites. Si c'est basé sur... ce que je viens d'enseigner, ou s'il y a encore un midrash dont je ne me rappelle pas en ce moment, je ne peux malheureusement pas vous dire maintenant, je vais avec plaisir, je rechercherai ça pour vous communiquer ça après. Oui ?
On est parti au tout début, et c'est même moi qui m'a mentionné qu'on ne voit pas le rapport entre la superstition...
On va retourner à ça maintenant. Voilà. On retourne, mais d'abord, je veux d'abord passer par Moïse. D'accord. Alors, Rabbi David Kimchi, un des commentaires bibliques... essaie justement de jouer avec cette idée Moïse-David. Et il dit, on n'a pas de livre, d'autres livres de Moïse, sauf la Torah. Donc, ça, il trouve ça un peu étrange. Il dit, voilà, il croit que David ait trouvé des psaumes de Moïse, mais qu'il les a retravaillés. Et qu'après, il les a inclus. Et ça nous répond, Notre question qu'on avait à propos de est-ce que c'est Asaf ou Moïse? Parce que clairement, il y a un lien entre ce psaume-là et le psaume 73, qui est un psaume d'Asaf. Donc je dirais que Asaf, à travers l'étude du psaume de Moïse, est arrivé à répondre à sa question qu'il avait au psaume 73, et l'a incorporé ici, mais qui est probablement retravaillé ce psaume de cette façon. Donc quel est le lien avec le Shabbat? Chaque Shabbat, à la conclusion de la prière, on a de l'étude. Qu'est-ce qu'on étudie à la fin de la prière avant le Alléluia? On étudie entre autres les... Pas le vendredi soir, le Shabbat matin. On étudie une braïta, un texte du Talmud, à propos des cantiques du jour. N'est-ce pas? Et on nous dit là-bas, le dimanche tel, le lundi tel, le mardi tel. Et pour le Shabbat, nous avons Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Et qu'est-ce qui vient après comme parole, si quelqu'un se rappelle, Mizmor Shir Liyom... Mizmor Shir?
À la fin.
Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Mizmor Shir Le'atid Lavo. Le Talmud s'est posé cette même question. Mais quel est le lien avec le Shabbat? Nous avons une tradition que les Lévi'im ont chanté ça, le Shabbat, dans le temple. Mais pourquoi? Parce que le Shabbat, ce n'est pas seulement le septième jour. Le Shabbat représente, c'est un symbole, il représente aussi le Shabbat éternel, Olam Haba. Et nous avons la notion de perspective. Ça veut dire que de vivant, surtout quand on est jeune, mais peut-être même pendant toute la vie, on ne va pas réellement pouvoir répondre à la question de la théodicée. C'est seulement à partir de la perspective de l'éternité. Donc, Olam Haba, éternité, on reçoit cette perspective. Un jour, on va avoir la perspective qui va nous permettre de comprendre la justice dans le monde. Mizmor Shir Liyom HaShabbat, c'est pas le chant du Shabbat le septième jour. On le chante au septième jour. Mais c'est le chant du Shabbat éternel. Maintenant, vous voyez le lien entre la superscription et le contenu. Votre question?
En fait, une question, on va me permettre une proposition.
Oui.
Parce que justement, on parle du Shabbat, on parle d'éternel. Donc, le Shabbat, il est main, Olam Haba. Et j'ai l'impression que la superscription, elle englobe la première phrase. Donc, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, le Tov Leodot Lachem, on aime bien le Shabbat. On va dire que le moment le plus propice pour ressentir le Tov Leodot Lachem, que c'est bon, on peut connaître les barreaux. C'est vrai qu'on fait la fila tous les jours, tous les soirs, mais le Shabbat, on prend du recul par rapport à la semaine. Et donc, ce bilan qu'on fait, comme vous dites, prendre du recul sur le Shabbat, on peut le faire tous les Shabbats.
Oui.
Donc, c'est on va dire que cette évaluation entre le bien et le mal, la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, le Shabbat, c'est le Shir Liyom HaShabbat.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je dirais, au départ, il s'agit du chant du Shabbat de l'éternité. Chaque Shabbat, quand on se retire, comme vous dites, on peut songer. Parce que ce qu'on ne peut pas comprendre par la propre expérience, parfois on peut le comprendre à travers les expériences de pensée. Et donc c'est le Shabbat, quand on a le temps, parce qu'on ne travaille pas, qu'on peut justement songer. Vous avez absolument raison dans ce sens-là, qu'il s'agit aussi du Shabbat hebdomadaire. Mais c'est le Shabbat hebdomadaire à travers l'idée qu'en fin de compte, il s'agit du Shabbat éternel. Donc on a les deux, ce lit, et donc on vient de découvrir encore une notion qui est vraiment, c'est invraisemblable, c'est-à-dire qu'on le voit. C'est que cette notion de lier le Shabbat à l'éternité, le Me'en Olam Haba qu'on retrouve dans les chants, ce n'est pas seulement de la période du Talmud, mais que c'est on peut dire de l'éternité juive que nous avons eu ce lien. On le retrouve dans la Bible même. Il ne s'agit pas d'une dracha, il ne s'agit pas d'une homilie. Il s'agit carrément de la façon dont le Shabbat a été perçu déjà depuis.
Pour moi, ça c'est le fondement du Shabbat.
Oui,
ce n'est pas quelque chose qui est rapporté ou pas.
Absolument.
On parle là du fondement du Shabbat.
Absolument, et on le retrouve, on le découvre justement.
Ça n'a jamais été autre chose que ça.
C'est vrai, mais c'est beau de le retrouver dans le texte.
Oui.
Voilà. Puis je suggérerais peut-être qu'on fait une interruption maintenant pour non seulement nourrir l'âme, mais aussi nourrir de façon physique, de se réveiller. Et on pourra après découvrir une autre réponse à la question de la théodicée à travers du psaume qu'on attache aussi avec Hanouka, le 30e psaume, ce sera pour un peu plus tard.
Le fondement du Shabbat, enfin, je ne vais pas soulever une problématique, mais le fondement, ça reste quand même les mitzvot.
Comment c'est?
Ça reste quand même les mitzvot, parce que cette capacité à se détacher de la matière et à prendre du recul et à arriver à ce stade de réflexion, c'est aussi par la pratique du Shabbat. Et c'est le fondement du Shabbat, c'est la pratique. C'est pas juste l'état de réflexion, parce que l'état de réflexion n'est possible que si dans la pratique,
entièrement d'accord. Pour moi, le fondement du Shabbat, c'est exactement rien de plus ni moins que ce qui est dit dans le Geffen. C'est quand on oublie que le Geffen, c'est il nous annonce que Dieu s'est reposé et que donc c'est par rapport à la semaine du travail. Donc c'est une obligation de cet arrêt, l'arrêt du travail, l'arrêt de la création, l'arrêt de la fabrication, tout le bitachon qu'on doit faire pour le Shabbat, c'est vraiment ça. Je ne vois pas qu'est-ce que ça. Puis, évidemment, pour asseoir, pour créer, pour révéler en nous, en quelque sorte, le Olam Haba, il y a toutes ces activités, toutes ces mitzvot qui incombent au Shabbat et qui sont là comme moyen de révélation du Mehen Olam Haba qui n'est pas accessible à la simple réflexion. On a besoin de ça. Ça, c'est de la
Lama Asiya jusqu'à la Lama Nouria. Je retrouve une discussion profonde.
Non, on s'est compris. Hein. Ouais, mais...